Voilà, donc aujourd'hui démarre la série sur le premier livre des rois. Pascal a fait une introduction la semaine dernière. Et donc, on va aborder ce livre qui passe en revue plusieurs rois, l'histoire des rois en Israël. Et on arrive à ce moment, à ce niveau-là, à la fin du règne de pas n'importe quel roi, la fin du règne du roi David. Et donc, il lui succédera un autre roi. Il y a eu au moins deux prétendants, deux de ses fils, un Absalom qui est mort, et l'autre que nous allons voir aujourd'hui, qui s'appelle Adonija, et l'autre qui était le roi légitime, qui est le roi, qui va devenir le roi Salomon. Donc je vous invite à prendre le premier livre des rois. Je vais lire, je lirai en deux fois, parce que ce sont des longs chapitres, et donc je lirai en deux fois. Je lirai le chapitre 1 jusqu'au verset 31, et la suite, donc ensuite, après. Donc un roi, du début, donc jusqu'au verset 31. Or, le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Ainsi, mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille et l'on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle soigna le roi et se mit à son service. Mais le roi ne la connut pas comme femme, donc. Adonija, fils de Haggith, élevait des prétentions. Donc Adonija est un des fils de David. Adonija, fils de Haggith, élevait des prétentions en disant « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais, sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche ou ne lui avait dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre fort beau à voir et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruya, et avec le sacrificateur Abiathar, et ceux-ci se rallièrent à Adonija. Mais le sacrificateur Tsadok, Benayahu, fils de Yehoyada, le prophète Nathan, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent pas avec Adonija. Adonija sacrifia du petit et du gros bétail, ainsi que des veaux gras, près de la pierre de Zoélète, qui est à côté de En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda, serviteurs du roi. Mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benayahu, ni les vaillants hommes, ni son frère Salomon. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi et que notre seigneur David ne le sait pas ? Viens donc maintenant, je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et tu lui diras, « Ô roi mon seigneur, n'as-tu pas fait un serment à ta servante en disant, « Ton fils Salomon régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. Pourquoi donc Adonija régnerait-il ? « Voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or, le roi était très vieux et Abishag, la Sunamite, était au service du roi. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Mon seigneur, tu as fait ce serment à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant de ton fils Salomon, « Il régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. » Or voici maintenant qu'Adonija règne, et maintenant tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Et toi, le roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui déclares qui siégera sur le trône du roi mon seigneur après lui. Lorsque le roi, mon seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva le prophète Nathan. On l'annonça au roi en disant, voici le prophète Nathan. Il arriva en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Ensuite, Nathan dit, ô roi, mon seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonija règnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône. car il est descendu aujourd'hui. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar, et les voici qui mangent et boivent devant lui et qui disent « Vive le roi Adonija !» Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benayahu, fils de Yehoyada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien de par mon Seigneur, le roi, que cette affaire a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui siégera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui ? Le roi David répondit « Appelez-moi Bathsheba ». Elle entra devant le roi et se présenta devant le roi. Alors le roi fit un serment et dit « L'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse. Ainsi que je t'en ai fait le serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Ton fils Salomon règnera après moi et siégera sur mon trône à ma place ». Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et dit « Vive à jamais, mon Seigneur le roi, David. » Jusqu'ici, donc, pour le moment, la parole de Dieu. Voici donc un prétendant, qui n'est pas le prétendant légitime. Et dans ce passage, il est beaucoup question d'orgueil, et d'orgueilleux et de serviteur, d'orgueil et d'humilité. Et la vérité qui m'est apparue dans ce passage, c'est que Dieu abaisse les orgueilleux et élève les serviteurs. Premièrement, nous verrons que les orgueilleux s'élèvent eux-mêmes. Deuxièmement, nous verrons que les humbles s'humilient eux-mêmes. Et troisièmement, nous verrons que Dieu abaisse les orgueilleux et élève les humbles. Voici donc le roi David qui est en fin de règne. Il est très vieux. Il est âgé de 70 ans. Sa santé décline, il est devenu dépendant. Et alors, on lui propose une belle jeune fille vierge, qui s'appelle Abishag, une sunamite, pour le servir comme infirmière, en quelque sorte. Aussi belle soit-elle, il nous est dit que David ne coucha pas avec Abishag. Alors, pourquoi faire appel à cette jeune fille ? Pourquoi pas sa femme, Bathsheba, pour prendre soin de David ? Eh bien, n'en doutons pas, Bathsheba était aussi très âgée. Et puis aussi, David, il avait beaucoup de fils. Pourquoi pas un ou plusieurs de ses fils pour s'occuper de leur père ? Au contraire, ça ne va pas être un de ses fils qui va s'occuper de leur père, ça va être un des fils va prétendre au trône. Il y en a un qui convoite la place du roi, c'est le quatrième de ses cinq fils. David a eu cinq fils, et le quatrième, eh bien, c'est Adonija. Avant lui, Amon, le fils aîné, et Absalom, qui était le troisième fils, étaient tous deux décédés. Absalom ayant prétendu lui aussi au trône. Et il est décédé. Vous pouvez voir ça en 2 Samuel, chapitre 3, verset 2 à 4. Adonija, donc, qui prétend au trône. Est-ce qu'il a appris quelque chose ? Est-ce qu'il a tiré une leçon de ce qui est arrivé à son frère Absalom, qui convoitait aussi le trône ? Non. Apparemment, non. Il convoitait aussi le trône de son père David, et la mort d'Absalom ne lui a rien appris. Adonija, qu'est-ce qu'il fait ? Il conspire, c'est une conspiration contre son propre père. Il veut se faire reconnaître comme héritier du trône par le chef de l'armée, par Joab, par Abiathar, le sacrificateur. Tous deux étaient au service de David dans les premiers temps. Adonija était... Il élevait des prétentions, verset 5. Autrement dit, il était motivé par son propre orgueil. Voyons au premier point, les orgueilleux s'élèvent eux-mêmes. Le roi Adonija, le nom Adonija veut dire « Yahvé est seigneur ». C'est clair que pour Adonija, ce n'était pas le cas. Yahvé n'était pas son seigneur. Adonija pensait que tout lui était dû, étant son propre seigneur. Et on peut se demander pourquoi il est devenu comme ça. Très clairement, le texte nous le dit. C'est que l'éducation de Adonija laissait beaucoup à désirer. Verset 6, voici la raison. Jamais sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche ou ne lui avait dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et voilà ce que cela a donné. Il a toujours fait ce qu'il a voulu depuis son enfance, enfant gâté, jamais contrarié. Jamais de reproche, jamais de punition, par celui qui était à même de lui ordonner, son père, qui plus est le roi, son père. Un mode d'éducation qui est malheureusement très à la mode aujourd'hui et qui porte un nom officiel qui s'appelle éducation positive dans notre société. Tout récemment, je n'ai pas vu l'émission, mais tout récemment, une émission qui s'appelle, vous connaissez, qui s'appelle Zone Interdite, qui a été diffusée sur M6, tout récemment, le 6 avril dernier, le titre de l'émission s'appelait « De la fessée à l'éducation positive ». Comment on est passé de la fessée à l'éducation positive ? Et voici ce qu'on peut lire dans l'encart qui présente l'émission. Je vous lis quelques extraits. Voilà, donc le texte qui présente cette émission. Entre ceux plus âgés qui regrettent l'époque révolue de la fessée et des jeunes parents pour qui le maître mot est la bienveillance, c'est souvent le choc des générations. À Montbrison, dans la Loire, lorsque quatre générations se retrouvent à table autour de Périne, l'arrière-grand-mère, les discussions sur l'éducation des enfants tournent souvent à l'incompréhension. La retraitée qui a été élevée à la dure estime que ses deux petites filles, Marilyn et Lisiane, chacune maman de deux garçons, sont beaucoup trop permissives. Entre l'ancienne génération qui a connu l'époque des punitions physiques, aujourd'hui interdites par la loi, la fessée, mais pas punissable, c'est interdit mais il n'y a pas de sanction dans la loi. Donc entre l'ancienne génération qui a connu l'époque des punitions physiques, aujourd'hui interdites par la loi, et la nouvelle qui a choisi d'être dans la bienveillance, pas toujours facile de s'accorder. Voilà, ça c'était l'encart d'introduction. Un peu plus loin, on peut lire, poussé à l'extrême, donc toujours pour présenter cette émission, poussé à l'extrême, l'éducation positive peut se retourner contre les parents. Et je lis un peu plus loin, un tiers des femmes disent être victimes de burn-out parental. C'est donc une réalité dans notre société aujourd'hui. Résultat, est-ce que ça a rendu les enfants meilleurs aujourd'hui ? Clairement, non. Vous suivez l'actualité. Aujourd'hui, la délinquance juvénile a explosé ces dernières années. A explosé. Donc cette nouvelle façon d'éduquer les enfants n'est certainement pas la bonne. Bien sûr qu'il faut aimer les enfants, mais le manuel d'éducation, il n'y a pas d'école pour les parents. Le manuel, il est là. Le manuel d'éducation pour les enfants. C'est intéressant, j'ai regardé le mot qui a été traduit par « faire des reproches ». David n'avait jamais fait un reproche à son fils, le verset 6. Ce que David n'avait pas fait de reproche avec Adonijah. Ce mot veut dire aussi chagriner, déplaire à. Alors, ce qui peut motiver les parents, c'est qu'on ne veut pas leur faire de la peine, on ne veut pas leur déplaire. Mais ce n'est pas les aimer. Et être chagriné dans son enfance évitera à l'âge adulte des chagrins bien plus douloureux. Aussi, le deuxième sens de ce mot, faire des reproches, c'est former, façonner, copier. Réprimander ses enfants contribue à les façonner selon un bon modèle. Copier. Oui, les premiers modèles, ce sont les parents, aussi imparfaits que les parents sont. Nous sommes tous. Nous ne sommes pas arrivés encore. Qu'on soit parent ou pas. Former, façonner, copier. Les parents seront les premiers modèles que les enfants imiteront. Pas facile d'être parent, pas facile d'être des bons modèles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la grâce de Dieu avec vous. Si vous voulez plaire au Seigneur, il est avec vous pour vous aider à éduquer vos enfants, même si effectivement aucun parent n'est parfait. Les parents chrétiens, j'entends. Les parents chrétiens ont cet avantage qu'ils disposent du meilleur manuel d'éducation des enfants. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est éternelle. Elle n'est pas démodée, comme certains voudraient bien nous le faire croire dans l'actualité. Voilà. La Bible dit clairement, en Hébreux 12, verset 6, « Dieu corrige celui qu'il aime. La correction va de pair avec l'amour. » Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Les deux vont de pair. Bien sûr, et les parents peuvent compter sur la grâce de Dieu pour éduquer leurs enfants. Et l'Église peut prier pour les parents. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Prie les uns pour les autres, pour les célibataires aussi, pour les personnes âgées, pour les enfants. C'est tout ce monde, l'Église, tous ceux qui ont passé leur confiance en Christ. Donc, éducation qui a beaucoup laissé à désirer de la part de David pour son fils Adonijah. En outre, le texte nous apprend que Adonijah était beau de figure. On ne choisit pas son physique. David aussi était beau de figure. Sauf que lui, il avait un cœur pour Dieu. Adonijah, lui, voulait utiliser son physique pour plaire aux foules, pour séduire, pour arriver à ses fins. C'est une autre caractéristique de l'orgueilleux. Quand il a un physique favorisé, il va l'utiliser pour séduire, pour arriver à ses fins propres. Il se fonde sur l'apparence pour mieux séduire et s'élever. Adonijah prépare donc son intronisation avec une grande fête, en cachette de son père David, le roi devenu vieux. En cachette. L'orgueilleux ne veut pas se soumettre. Il agit en cachette, de façon sournoise, insidieuse. Il fait ses propres plans, ne voulant pas se soumettre au plan de son père, au plan divin. L'orgueilleux agit par lui-même et pour lui-même, et il profite de la faiblesse des autres. Et puisque Adonijah n'a jamais été contrarié par son père, certainement, et c'est ce qu'il fait, il s'entoure d'une équipe de fidèles qui ne risquent pas de le contrarier, qui le caressent, comme on dit, dans le sens du poil, dont font partie ses propres frères. Ses propres frères qui le suivront probablement par opportunisme, convoitant une place dans la cour du roi. Adonijah invite tout le monde, sauf bien sûr celui qui est légitime pour régner, c'est-à-dire son frère Salomon. Et aussi tous ceux qui sont restés fidèles à son père, c'est-à-dire un responsable de l'armée, Benayahu, genre de général, aussi les vaillants hommes de David, il nous a dit, et aussi Nathan le prophète, et Tsadok le sacrificateur, le prêtre. Tous ceux-là sont restés fidèles à David. Nathan, il a suivi David, Nathan, c'est lui qui a repris, je vais y revenir, qui a repris David quand il a commis adultère avec Bathsheba, avant, je vais y revenir. Nathan savait, il était prophète, il savait qu'avant la naissance de Salomon, Dieu avait annoncé à David que ce fils, Salomon, serait le prochain roi d'Israël. Et nous pouvons le lire en 1 Chronique, chapitre 22, versets 9 et 10. Je vous le lis, 1 Chronique 22, chapitre 9 et 10. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume d'Israël. Donc Nathan le savait, que le fils qui devait régner, celui qui est légitime, c'était Salomon. Pourquoi ? Parce que Salomon a été choisi par Dieu. Voilà pourquoi il était le légitime successeur de David. C'est Dieu qui a choisi Salomon. Et Nathan, il était prophète, il voulait voir la parole de Dieu s'accomplir. C'est aussi la marque d'un serviteur. Vouloir voir la parole de Dieu s'accomplir et pas sa propre volonté. Alors Adonijah complote. Mais la Bible nous dit, en Proverbe 16, verset 18, elle parle de l'orgueil. Voici ce qu'elle dit, Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. C'est un avertissement très clair. Si Adonijah complote, il y en a un autre qui va comploter, c'est Nathan. Et lui, il va comploter pour la bonne cause, en faveur de Salomon. Mon premier point, donc, était les orgueilleux s'élèvent eux-mêmes. Mon deuxième point, eh bien, c'est que les humbles s'humilient eux-mêmes. Tous ceux qui sont restés fidèles au roi Salomon, au roi David, ce sont des humbles, ce sont même des serviteurs, qui vont s'humilier devant lui. Nathan, pour commencer, va s'humilier. Contrairement à Adonijah qui s'était entouré de personnes qui lui étaient favorables, qui étaient toutes d'accord avec lui, pour ne pas être contrarié, David, il avait gardé dans son entourage, depuis bien longtemps, le prophète Nathan. Le prophète Nathan, c'est celui qui l'avait repris bien des années auparavant, lorsqu'il avait, David avait commis adultère avec Bathsheba. C'est Nathan qui a repris David. David qui avait commis adultère avec Bathsheba, qui avait fait tuer son mari. David a donc perdu son premier bébé avec Bathsheba, né de cet adultère. Ensuite, lui est né un autre enfant qui sera Salomon. puisque David a pris pour femme Bathsheba après s'être repenti. Alors, c'est intéressant comment Nathan procède ici. Il ne va pas voir David directement comme il avait fait lorsqu'il était allé, lorsqu'il voulait le reprendre suite à l'adultère qu'il avait commis. Ici, Nathan va voir d'abord la maman de Salomon, c'est-à-dire la femme de David, Bathsheba. Il ne va pas voir David directement, il ne va pas voir le roi directement, il va d'abord voir son épouse. Et on peut y voir que Nathan va respecter les parents ici. Il va respecter les parents en appelant premièrement la mère de Bathsheba. Il faut que la femme de David parle avec son mari, le roi. Donc Nathan demande à Bathsheba d'aller parler au roi en lui disant ce qu'elle doit lui dire. Et aussi pour sauver sa vie et celle de son fils Salomon, pour sauver la vie de Salomon et la sienne. Que fait Bathsheba ? Eh bien, tout à l'opposé, elle n'est pas orgueilleuse, elle se soumet à Nathan. Elle aussi, elle s'humilie. Elle se soumet à Nathan et aussi elle s'humilie devant son mari. Elle s'agenouille devant le roi, son mari, et elle se nomme elle-même sa servante, verset 17. Elle rappelle à son mari qu'il lui avait fait la promesse que Salomon serait, leur fils serait le prochain roi. Et puis, selon les instructions de Nathan, elle lui décrit la machination qui est en train de se faire à son insu pour instaurer Adonija comme roi. Puis, selon le plan de Nathan, elle se retire et elle laisse la place à Nathan. Et voici donc Nathan qui arrive. Nathan aussi, ce n'est pas un orgueilleux. Tout prophète qu'il est, il s'humilie devant le roi. Le roi qui a été choisi, le roi David qui a été choisi et institué par Dieu. Donc, autre marque d'humilité, non seulement chez Bathsheba, mais aussi chez Nathan, à l'opposé des orgueilleux de tout à l'heure. Ici, on est donc à l'opposé des manœuvres d'Adonija. Nathan confirme au roi la nouvelle du complot. Et il manœuvre Nathan. Il lui demande si tel était son souhait qu'Adonija règne, comme s'il s'agissait d'une promesse que David avait faite. Promesse qu'il aurait cachée à Nathan. Et Nathan ne manque pas de préciser que ni lui, ni les autres soutiens de David n'ont été invités, ni bien sûr Salomon. Là, David est au courant. Et le plan de Nathan, c'était de réveiller David, tout âgé qu'il était, de le faire réagir. Et il a réussi. On peut vraiment parler d'un électrochoc, là. David va réagir. Alors, il va laisser la place à Bathsheba. Il rappelle Bathsheba après Nathan. C'est à elle qu'il avait fait la promesse que leur fils Salomon régnerait à sa place, et non pas à Adonija. Et David rappelle sa promesse à sa femme Bathsheba. Il voulait la rassurer. Il est encore temps d'agir. Jusqu'à présent, le couronnement n'a pas encore eu lieu. Le couronnement d'Adonija. Il est temps d'agir urgemment avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après, il serait trop tard. Alors David, effectivement, il est âgé, mais il a compris. David ne pouvait plus laisser faire Adonija comme il l'avait toujours laissé faire. Il fallait agir sans tarder ce même jour. Il fallait que Salomon soit bien intronisé ce jour même. Parce que ne pas agir immédiatement, laisser traîner, équivaudrait à laisser Adonija aller sur le trône et à violer sa promesse pour David. Et après, il serait trop tard. Donc, il y a des situations comme ça où il ne faut pas attendre, quand l'enjeu est trop important. Parfois, on a tendance à laisser faire, mais parfois, nous sommes appelés à réagir à des situations qui sont dangereuses. Non, Salomon sera bien le roi, intronisé, et le jour même. Vous avez remarqué aussi, Salomon, jusqu'à présent, il n'a rien eu à faire. Il n'agit pas de lui-même, Salomon, sinon se conformer au plan de David, sinon laisser faire Dieu. Salomon aussi, il va montrer son humilité. Il ne prétend pas comme Adonija au trône, c'est moi le roi. Non, il laisse faire. Lui, laisse faire ceux qui ont l'autorité, il n'est pas encore le roi. Et donc, Salomon va montrer aussi sa soumission, son humilité, en se conformant aux instructions du roi. Il n'agit pas de lui-même, contrairement à Adonijah qui a agi de son propre chef pour s'élever. Salomon n'agit pas ici de lui-même, parce que c'est Dieu qui va faire le travail. Mon troisième point, c'est Dieu qui élève les humbles et qui abaisse les orgueilleux. Donc David va donner des instructions pour introniser son fils Salomon. Et le plan de Dieu, hein, c'est le plan de Dieu qui derrière va s'accomplir à travers... C'est un travail d'équipe, de serviteurs fidèles et qui sont soumis à Dieu. Dieu va accomplir son plan à travers une équipe unie de serviteurs fidèles, soumis à Dieu. Donc je vous propose de lire la suite du récit, la suite et la fin du chapitre 1, à partir du verset 32. Donc je lirai à partir du verset 32, chapitre 1 toujours, jusqu'à la fin du chapitre. Le roi David dit « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan et Benayahu, fils de Yehoyada. » Ils entrèrent en présence du roi. Le roi leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur. Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guilan. Là, le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous monterez derrière lui. Il viendra siéger sur mon trône et c'est lui qui régnera à ma place. Je l'ai établi conducteur d'Israël et de Juda. » Benayahu, fils de Yehoyada, répondit au roi « Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Comme l'Éternel a été avec mon Seigneur le roi, qu'il soit avec Salomon et qu'il élève son trône plus que le trône de mon Seigneur le roi David. » Verset 38. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec le prophète Nathan, Benayahu, fils de Yehoyada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Guilan. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta derrière lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Adonijah entendit cela, ainsi que tous les invités qui étaient avec lui, au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son du cor, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Adonijah dit « Viens, car tu es un homme de valeur, et tu apportes de bonnes nouvelles. » Jonathan répondit en ces termes à Adonijah. C'est-à-dire que notre Seigneur, le roi David, a établi Salomon roi. Le roi a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan, Benayahu, fils de Yehoyada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui ont donné l'onction royale à Guilan. De là, ils sont remontés tout joyeux et le tumulte s'est répandu dans la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. Verset 46. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône plus que ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur sa couche. Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a placé quelqu'un sur mon trône, et mes yeux ont pu le voir. » Tous les invités d'Adonijah se mirent à trembler. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah, dans sa crainte à l'égard de Salomon, se leva pour aller saisir les cornes de l'autel. On fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adonijah, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit « S'il se montre un homme de valeur, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais si du mal se trouve en lui, il mourra. » Le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit « Va dans ta maison. » Amen. Justement, la parole de Dieu. Intronisation donc de Salomon. Selon tout un protocole, pour être intronisé, Salomon va devoir monter, non pas sur un cheval glorieux, mais sur une mule. Sur une mule qui est celle du roi David. La mule du roi David, indiquant, c'est pas n'importe quelle mule, indiquant que le roi David l'avait approuvé en tant que son successeur. La mule, c'est une marque d'humilité. D'autres rois auraient choisi des chevaux. C'est une marque d'humilité. Et moi, ça m'a rappelé l'entrée triomphale à Jérusalem de Jésus, lorsqu'il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, peu avant sa crucifixion. Salomon fut d'abord oint au nom du Seigneur, et le salut militaire lui fut rendu, le son du corps. Tout le peuple de Jérusalem cria sa joie, « Longue vie au roi Salomon !» Ensuite a eu lieu le couronnement. Le roi Salomon sera publiquement couronné à Jérusalem, selon les instructions de son père le roi David, qui laisse la place à Salomon. Le roi David, lui le roi, lui aussi a fait preuve d'humilité. Quelle humilité! Il s'est prosterné sur sa couche. Lorsqu'il a entendu ses serviteurs dire, je relis le verset 47, que ton Dieu, donc les serviteurs de David lui dirent, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône plus que ton trône. Qu'a fait le roi? Il n'a pas dit, non, c'est moi, son père, c'est moi. Non, le roi s'est prosterné sur sa couche. Il s'est humilié, verset 47, parce qu'il savait que cela venait de Dieu. David, ce n'était pas un homme parfait. Il a versé du sang, c'était un homme de guerre, il a commis adultère. Ce n'était pas un homme parfait, mais la Bible nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, verset 14. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Et il s'était repenti de son adultère avec Bathsheba. David a montré que c'était un homme selon le cœur de Dieu, même tout en n'étant pas parfait. Vous avez remarqué ici, il aurait pu user de son autorité de roi pour coucher avec cette jeune Shunammite, Abishag. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas usé de son pouvoir pour coucher avec elle. David était un homme selon le cœur de Dieu, il tenait à tenir ses promesses. On a parlé hier pendant la formation de l'importance de tenir ses promesses. Quand on fait une promesse à un enfant, il vaut mieux ne pas lui faire de promesse que de lui faire sans la tenir. D'où réfléchir avant de faire une promesse. David avait fait cette promesse à sa femme. Bathsheba, que ce serait Salomon qui monterait sur le trône. David tient à tenir sa promesse. Il était un homme selon le cœur de Dieu qui tient toujours ses promesses. Qu'en est-il de Adonijah l'orgueilleux? Eh bien, si Dieu élève les humbles qui s'humilient, il abaisse les orgueilleux qui se sont élevés. C'est ce qui va se passer. On a rapporté à Adonijah ce qui s'est passé. Et Adonijah, bien, il avait des raisons de craindre. Il a craint pour sa vie. Il s'est enfui, de même que ses appuis, ses partisans. Il a cherché refuge. Où ça? À l'endroit même où on fait des sacrifices. Sur l'autel des sacrifices. Il y a quatre cornes autour de l'autel qui servaient, on pense, à tenir les animaux. En tout cas, lui s'est agrippé aux cornes de l'autel. Cet autel, il devait servir à expier les péchés, au sacrifice pour expier les péchés. Nous lisons en Exode chapitre 30, verset 10, « Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. » Exode 30, verset 10. Les cornes de l'autel avaient donc leur importance pour expier les péchés. C'était l'autel des sacrifices. Adonijah, donc, s'est réfugié là, et il va faire une demande à Salomon. Il va lui demander grâce. Il lui demande d'épargner sa vie. Ce que Salomon fera. Et vous avez remarqué, il va lui faire grâce, mais à une condition, verset 52, c'est qu'il se montre un homme de valeur. Alors, dans la suite du récit, pas pour aujourd'hui, on verra qu'il va échouer. Adonijah. En tout cas, à ce moment-là, il a encore la possibilité de se repentir et de se montrer un homme de valeur. Il a la possibilité à ce moment-là. Alors l'orgueilleux, il va descendre non seulement de l'autel, mais il va descendre de son piédestal où il avait voulu se monter lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant Salomon. Oui, Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Et lui-même s'est humilié. Il a montré la plus grande humilité lorsque le Seigneur Jésus a quitté son ciel pour descendre. Il est descendu volontairement vers nous pour prendre la forme d'un serviteur. Dieu lui-même s'est fait serviteur. Lorsqu'il s'est incarné en Jésus, il a quitté son trône de clarté, son trône glorieux au ciel. Contrairement à Adonija, qui était beau de figure, la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il s'est humilié jusqu'à sa mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Puis Dieu l'a élevé, il l'a ressuscité. Il a ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu, après s'être humilié. Il a fait ça pour nous offrir le pardon. À quiconque s'humilie et à quiconque croit en lui et se repent de ses péchés. Jésus a fait ça pour nous. Effectivement, il offre le pardon à tous, à chacun qui s'humilie devant lui et qui croit en son sacrifice, qui se l'approprie personnellement. Tous les croyants peuvent entrer, ou tous ceux qui vont le devenir peuvent entrer dans la présence de Dieu pour leur protection. L'accès nous est ouvert. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Il est notre protection. Pour autant, ce que Salomon a demandé à Adonija, qui se montre un homme de valeur, verset 52, eh bien, ça nous est demandé aussi à nous, hommes, que Jésus nous a transformés et qu'il a fait de nous des hommes et des femmes de valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Puisque nous sommes des hommes et des femmes de valeur, eh bien, montrons-le, vivons en tant que tels. Adonija, lui, va échouer. Ça, c'est pour... On garde ça. C'est pas pour aujourd'hui, en tout cas, le récit. Sauf si vous voulez le lire à la suite. Salomon a été rejeté. Il a été mis de côté. Jésus a été rejeté. Les chrétiens aussi sont parfois rejetés. Peut-être vous vous sentez rejeté parce que vous êtes chrétien, parce qu'on ne vous a pas invité à telle ou telle fête. Si c'est le cas, si vous vous sentez mis de côté, vous n'êtes pas du Seigneur. Parce qu'un autre festin nous attend, un autre festin, celui-là, un festin au ciel qui attend tous les rachetés, tous les enfants de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, voici ce qui nous attend à l'Église, ce qui attend l'Église. En Apocalypse 19, verset 9, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Si Jésus est votre sauveur, eh bien, vous êtes invité et vous êtes heureux. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ces récits qui sont là. Tu nous les as laissés, Seigneur, pour nous édifier, pour nous instruire aussi, pour nous mettre en garde. C'est vrai que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais Seigneur, nous avons reçu une nouvelle nature lorsque nous t'avons fait confiance. Garde-nous d'agir contre nature, contre la nouvelle nature que tu as mise en nous, Seigneur. David n'était pas parfait, Seigneur, mais il avait un cœur pour toi. Seigneur, nous ne sommes pas devenus parfaits, mais toi, tu termineras l'œuvre que tu as commencée en nous selon ta promesse. Aide-nous à nous laisser faire par toi, Seigneur. Donne-nous un cœur humble qui t'honore, Seigneur, et aussi fermement attaché à toi, Seigneur. Et merci de ce que tu es fidèle, Seigneur. Merci de nous reprendre parce que tu nous aimes. Oui, Seigneur, tu aimes tes enfants et lorsque nous ne sommes pas sur la bonne voie, tu sais comment nous parler, comment interpeller notre cœur pour qu'on tende l'oreille, Seigneur. Tu sais comment le faire, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, qu'on soit attentif, oui, à tes encouragements et aussi à tes réprimandes, Seigneur, lorsque tu juges nécessaire de le faire, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu es ce Père parfait, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.